Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager encore une fois avec Marjolaine où on va parler de la dernière danse en fait. On parle de la mort, on parle de ses derniers moments et comment elle, de selon son expérience, elle a pu accompagner des gens et comment est-ce qu'on vit cette transition. Bonjour et bienvenue dans mon podcast de Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité, tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans égo et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Bonjour, belle sorcière. Aujourd'hui, je viens accompagnée de Marjolaine où on va parler d'un sujet qui, pour certains, peut paraître délicat, en fait. Elle va venir nous parler parce qu'elle est infirmière à domicile et elle offre de l'accompagnement de fin de vie. Donc, aujourd'hui, on vient parler de cette valse entre la vie et la mort avec la belle Marjolaine. Comment vas-tu, ma chère?
Ça va très bien, Gaïa. Je suis très contente d'enregistrer ce podcast sur ce sujet à la fois délicat. Et en tout cas, moi qui m'apporte beaucoup de joie, j'espère que j'aurai la possibilité d'exprimer ce paradoxe entre quand on parle de mort et à la fois de ressenti de joie profonde et intense.
Ouais. Puis c'est drôle, on parlait ensemble de quelque chose qui n'était pas nécessairement en lien avec ça, mais en même temps un peu. Parce que toi, tu te spécialises avec les huiles et tout ça. Donc, on parlait du sujet cette journée-là. Puis, tu m'as raconté une histoire que, justement, pendant un de tes accompagnements en fin de vie, peut-être la raconter. Je trouve que c'est super beau.
Ben oui, avec plaisir, Gaïa. C'était un accompagnement de fin de vie d'une dame d'à peu près 70 ans, relativement jeune. Je la savais passionnée par les huiles essentielles parce qu'elle en avait beaucoup chez elle. À l'époque, moi, je m'y intéressais déjà beaucoup, mais c'était pas un sujet de conversation avec cette patiente. Mais voilà, elles étaient présentes. Et une de ses filles était maître Reiki. Donc, dans l'accompagnement de fin de vie, j'avais juste demandé l'autorisation de porter à mes poignets pendant le soin, une goutte d'huile essentielle de rose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé une goutte sur chacun de mes poignets et j'ai fait le soin. Alors, à l'époque, comme c'était en campagne, je faisais les toilettes, tous les soins techniques et les soins de confort, comme on dit. Et pendant la durée de ce soin, où j'étais accompagnée par sa fille, qui était aussi à son chevet, eh bien, cette femme qui était déjà entre deux mondes et qui s'exprimait à peine, elle a balbutié deux mots qui sont les mots « rose » et « cœur ». Et là, avec sa fille, on s'est regardé et on n'en a pas parlé, mais pour moi, ça a été un véritable choc, en fait, émotionnel de me dire la puissance et la magie de ces plantes, en tout cas dans ce cadre-là.
Vraiment, vraiment. Juste pour nous mettre un peu en contexte, là, quand on parle, par exemple, toi, tu offres de l'accompagnement de fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, c'est dans le cadre où les familles choisissent de garder à domicile un membre de leur famille pour l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à sa mort à domicile, Donc, y a des partenaires évidemment cruciaux. Hein. Alors déjà, la famille proche, l'aidant naturel le plus proche, souvent un époux, une épouse, des enfants, ou, voilà. Et puis, des professionnels de santé, donc le médecin, l'infirmière. Des fois, c'est des intervenants aussi, on appelle ça l'hospitalisation à domicile, l'HAD, voilà, c'est des... où on met en place tout ce qu'il faut pour accompagner tout l'aspect, le plateau technique en tout cas, même si pour ma part, en fait, on a besoin de cet aspect technique, mais que le relationnel est celui qui prévaut dans l'accompagnement de fin de vie. Donc voilà, ça se fait dans ce cadre-là, dans l'accompagnement à domicile. Ça se fait aussi en milieu hospitalier, mais je ne pourrais pas vous en parler puisque moi, ma spécificité, c'est de l'avoir fait et de le faire encore aujourd'hui. Un petit peu moins parce que c'est culturellement, là où je suis aujourd'hui, on accompagne moins nos familles, enfin nos patients en fin de vie. C'est pas forcément le choix des familles, mais quand j'étais en Corse, j'ai vécu 14 ans, là, on faisait beaucoup d'accompagnement de fin de vie puisque les familles, culturellement, gardent leurs patients à domicile jusqu'au bout.
Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment interpellée dans les dernières années. Pourquoi est-ce que on a transitionné vraiment à couper la personne de son domicile, d'où elle a vécu, d'où elle se sent bien dans cet espace peut-être un peu plus sécuritaire, hein? Je te pose pas la question parce que j'imagine que t'as pas vraiment la réponse toi non plus, mais c'est quand même assez intéressant de voir ce changement qu'on a vécu. Qu'est-ce que toi, tu observes? Parce que, encore une fois, on dit toujours, on peut parler de notre propre expérience, mais les gens qui choisissent, par exemple, de faire ça à la maison, qu'est-ce que tu observes qui se passe dans l'énergie, dans la famille, dans ceux qui restent, dans la personne aussi, en fin de vie?
Pour moi, je te cache pas que c'est une forme d'idéal. Alors, je me positionne en tant que professionnelle parce que personnellement, je ne l'ai pas vécu. J'ai pas accompagné un membre de ma famille parce que ça s'est pas présenté jusqu'alors. J'ai pas accompagné de personne en fin de vie. Je l'ai fait uniquement professionnellement et je tiens à dire que c'est dans ce cadre-là. Je pense que si les personnes font confiance à l'hôpital ou aux unités de soins palliatifs, c'est parce qu'il y a de vraies compétences, ça c'est indéniable. Ce sont des services spécialisés, et voilà. Mais néanmoins, je pense que c'est la peur en fait et la méconnaissance qui font que les gens ne pensent même pas que c'est possible de garder... un membre de sa famille et de le garder et de l'accompagner jusqu'au bout à domicile en se disant « mais comment je vais faire ? J'ai pas tout ce qu'il faut, moi je sais pas faire ». Et en fait, c'est parce que c'est sorti culturellement de nos habitudes, parce que la mort est un tabou, je pense que la mort est cachée, on n'en parle pas. Et moi, c'est vraiment cette période de vie plongée dans une culture différente. Alors, il n'y a pas qu'en Corse, évidemment, je ne parle que de ce que je connais. Il y a d'autres cultures, d'autres civilisations encore aujourd'hui où on s'occupe de nos personnes âgées et qu'on les accompagne jusqu'au bout. Je parle aussi du cadre d'une personne en fin de vie, d'une personne âgée ou moins âgée, mais je ne parle pas non plus d'enfants, etc. Là, il faut vraiment... des circonstances et puis des aides autres. Mais en tout cas, je pense que c'est parce qu'on n'en parle plus culturellement. Et la période de la pandémie, avec cette impossibilité d'être à côté, d'être au chevet, parce que le virus faisait que c'était pas possible, on avait peur de la transmission, etc. Les gens n'ont pas pu accompagner. Et là, il y a un regain, je pense. Enfin, moi, je l'ai constaté là professionnellement, dans mon travail d'infirmière à domicile tous les jours, il y a des personnes qui ont sorti de la maison de retraite leurs parents pour des accompagnements de fin de vie à domicile. Donc, je crois qu'il y a des prises de conscience quand même aujourd'hui, Yaya.
Il y a du beau dans tout, hein? Il y a du beau et il y a du moins beau dans tout. Mais quelle belle nouvelle tu me partages maintenant, parce que si tu vois qu'il y a un regain de ça, ça veut dire que, on change peut-être un peu comment on appelle ça, nos priorités dans la vie. Hein? Et t'as touché un sujet, j'aimerais aller ouvrir la porte avec toi. T'as dit, on a peur de la mort. Pourquoi?
Mais On a peur de ce qu'on ne connaît pas, me semble-t-il, pour tout, en fait. Et souvent, derrière la peur, en tout cas, moi, mes peurs les plus profondes, mais souvent, derrière, il n'y avait pas grand-chose à part un tas de choses que je m'étais imaginées, qui s'avèrent être pas forcément justes.
Ouais.
Et donc, du coup, cette peur, c'est plutôt de la méconnaissance, de n'avoir pas vécu à côté de la mort comme quelque chose de totalement normal et pas toujours tragique, triste évidemment, triste.
Voilà, et puis je crois aussi que c'est culturel parce que ça fait plus partie du tout de nos habitudes que d'accompagner en fin de vie comme ça à domicile, dans les familles.
Oui.
Alors qu'à certains endroits, dans certaines cultures, il y a des enfants qui jouent dans le couloir quand il y a une personne qui est en fin de vie dans une chambre et qu'on visite. Et tout ça semble bien normal, que c'est une vie en fait, que d'arriver jusqu'à ce moment extrêmement précieux qui est ce moment du passage de la mort.
Oui, oui. Moi, je vais vous raconter un peu. J'ai en mars 2021, en fait, ma grand-mère, qui est ma muse, qui a été comme un rôle de mère dans ma vie, en tout cas, elle était justement dans ses derniers moments et on est allé, la famille avec les enfants et tout, parce que j'ai trouvé important aussi que mes enfants voient ce passage sans avoir peur. Parce que c'est beaucoup ce qu'on nous fait croire, que c'est épeurant de voir quelqu'un mourir et tout ça. Puis je voulais qu'ils voient aussi la beauté de ce passage. Et on la voyait, elle était entre deux mondes. On la voyait, elle partait, revenait. Et ils ont pu en fait lui raconter des histoires. Et mamie, elle lui parlait de leur vie et tout. Et mon mari lui a parlé, et je lui ai parlé aussi. Je lui ai rappelé des trucs drôles. Je l'ai vécu. Moi, c'était ma première fois d'un proche. Hein. Est-ce que de ton côté, quand tu accompagnes les gens en fin de vie, est-ce que tu vois peut-être l'énergie des gens autour comprendre que c'est pas épeurant aussi?
Oui, complètement. Complètement. Et les gens ont souvent beaucoup de satisfaction et de bonheur de l'avoir fait, même si c'est en tristesse, évidemment, parce que c'est la perte d'un être cher et qu'on ne le verra plus physiquement. Mais en tout cas, tous ceux qui ont accompagné comme ça sont souvent très heureux de l'avoir fait. Et quand il est possible d'en reparler plus tard, il reste quelque chose d'un partage très intime que je trouve très, très beau. Et oui, on peut choisir la couleur d'un drap pour refaire le lit aujourd'hui. On peut choisir une odeur que la personne aimait, mettre un petit fond musical. C'est une porte d'entrée pour communiquer aussi d'une manière très belle, avec beaucoup de belles intentions. Et de belles attentions aussi pour la personne qui laisse son corps physique, en fait. Et c'est quelque chose de très, très beau à vivre. Alors, ça paraît un peu paradoxal dans ce moment où il y a beaucoup de tristesse, beaucoup parfois de non-dits. Et le rôle du professionnel, c'est de pouvoir ouvrir, en fait, ces quelques pistes, ces quelques portes de communication qui sont différentes. À ce moment-là que pendant notre quotidien, en fait, quand tout va bien.
Oui, puis c'est une question, tu peux y répondre ou pas, mais est-ce que toi, tu as certaines manières d'approcher ça? Parce que j'imagine que tu n'as pas juste accompagné des familles qui étaient en totale harmonie, où tout le monde s'aimait et tout ça. La réalité, c'est qu'il y a pratiquement toujours des tensions dans les familles, des non-dits, comme tu l'as si bien dit. Est-ce que tu as des manières d'approcher ça? Est-ce que tu fais certains rituels? Comment est-ce que tu apportes cette... Comment est-ce que tu ouvres cet espace qui est si sacré?
Alors, c'est difficile C'est une question difficile parce qu'en fait, c'est un endroit, une zone de confort pour moi, dans le sens où on est dans une authenticité profonde. Mais il est vrai que en ouvrant l'espace de la parole aussi, en disant simplement à la famille ou à un membre de la famille, et vous, comment vous sentez-vous en tout cas, d'ouvrir une porte pour échanger ou simplement dire est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'il y a des choses qui vous effraient? C'est être le plus authentique possible et de dire les choses telles qu'ils sont. Et on respecte aussi, bien entendu, de la famille est dans le déni en disant non, mais moi je trouve que ça va mieux. Ou moi je... Souvent, ce que je te partageais aussi, Gaïa, c'est que les gens sont effrayés d'imaginer que leur, la personne qui est en fin de vie meurt de faim. Mmh. Par exemple, moi j'explique qu'en fait, la personne ne désire plus manger. Elle n'est pas en train de mourir de faim, mais elle n'a plus faim. Et si on va plus loin, elle n'a plus faim de vivre. Donc, il faut bien entendu qu'elle s'allège physiquement pour pouvoir s'alléger, oui, de ce corps matériel et pouvoir s'élever, en fait. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut expliquer avec les bons mots en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et leur dire que en évitant de vouloir à tout prix donner à manger, de vouloir à tout prix hydrater, bah que c'est plutôt un bon geste et un geste d'amour que de faire attention à cela à ce moment-là.
C'est magnifique. C'est tellement beau ce que tu et la manière que tu l'apportes. Il y a une paix dans ta voix et tout où on sent vraiment ton amour pour ou ta passion en fait. Pour ce que tu offres aux gens. C'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai comme entendu facilitatrice de ce dernier espace. C'est en fait ce que tu es. Hein. Quand tu vas œuvrer auprès de ces gens-là, c'est juste de tenir l'espace que tu offres.
Hein. Et oui, et mes collègues le font tout aussi bien que moi parce qu'en fait, on est dans une authenticité profonde et les gens sont les mêmes dans ce cadre-là que dans tout autre cadre, que ce soit celui de la maladie ou si c'est un voisin qu'on côtoie tous les jours, ils ont besoin aussi de ce médiateur de parole et ne pas être simplement fui. Il faut beaucoup de respect, mais c'est vrai que quand on a beaucoup de sensibilité, c'est plutôt un espace de confort, effectivement. Tu as raison, c'est un endroit où on se sent complètement à sa place. Et si on ne se sent pas à sa place, évidemment, je pense qu'on ne va pas vers ce type de soins. Hein. Ça me paraît totalement logique et on peut être très performant pour d'autres choses. Mais quand on est à sa place, c'est des moments privilégiés de vivre ces moments-là auprès des familles. Oui,
oui tout à fait. Puis avant qu'on enregistre, j'ai dit c'est... Les gens ont, la plupart des gens ont peur de la mort, hein. Et tu m'as dit, la mort donne tout le sens à la vie. C'est parce qu'on est mortel qu'on est vivant. Et j'aimerais que tu nous expliques ta pensée derrière ça qui est tellement parlante pour les gens, tu sais, qui ont vraiment peur de mourir, qui ont peur de la fin, en fait, parce que on nous a encore inventé ou montré, en fait, une illusion par rapport à la mort. Comment est-ce que toi, tu vois la mort, toi personnellement, la Marjolaine?
Il y a forcément des croyances. On en a tous. Il y en a qu'on a, il y en a de nouvelles qu'on accepte ou on se laisse emporter par ces croyances-là parce qu'elles nous conviennent. Moi, ma croyance, elle est qu'effectivement, il y a l'abandon d'un corps physique, mais extrêmement précieux. Et tu sais, Gaïa, à quel point prendre soin de son corps physique, pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose parce que c'est aussi l'interface qui permet de se connecter aussi à l'âme des gens et à sa propre âme. Quand on prend soin de son corps, on prend soin de ce corps physique qui, pour moi, laisse passer la lumière aussi. Donc, c'est très important ce corps physique et ce corps matériel, ce véhicule pour cette vie-là. Mais en tout cas, quand on a cette croyance que l'âme va s'élever ou en tout cas qu'elle va exister autrement, évidemment que c'est très aidant. Et je ne demande pas à ce que les familles adhèrent à cette croyance-là. Mais en tout cas, moi, la manière dont j'en parle autour de ça, je pense que ça peut les aider. Parce que j'ai un patient, d'ailleurs, ça me vient comme ça, où j'avais abordé le sujet, j'avais dit, est-ce que vous avez des croyances? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que, voilà, ou pas? Et ce patient m'avait dit, en souriant, il était très drôle, il m'avait dit, ben, finalement, je n'en avais pas, et aujourd'hui, j'en ai, et ça m'arrange bien.
C'est trop cute!
Les femmes donnent naissance, il y a quand même un corps qui donne la vie. Donc, j'aime à croire qu'effectivement, tout ça, cette beauté du monde, cette beauté des corps ne soit pas là pour rien. Et il m'a très sincèrement dit, et ça m'arrange bien dans la situation dans laquelle j'étais. J'ai trouvé ça très, très bien de pouvoir exprimer ça dans un échange comme ça à ce moment-là.
Oui, puis en plus, ça démontre qu'il n'est jamais trop tard et qu'on peut changer et qu'on peut se transformer et qu'on peut changer d'idée. Parce que c'est souvent, on s'emprisonne soi-même dans des croyances et des pensées et on veut comme tenir à nos valeurs, à ce qu'on croit être nos valeurs et on passe à côté d'une possible vie qui pourrait être tellement plus grande que ce que l'on... C'est de soi-même construit. Hein.
Oui. Et ce que tu disais aussi sur le fait, effectivement, parce que si nous étions immortels, le sens de la vie ne serait vraiment pas le même. Là, il y a eu et il y a une fin. Et effectivement, quand tu as deux dates comme ça, un début, une fin, il y a ce petit trait d'union. Et je l'ai entendu d'un film que je suis allée voir au cinéma, le film Presque, d'Alexandre Jolien et Bernard Campan, où il dit que bah, de ce trait d'union, il faut en faire quelque chose de beau, de quelque chose où on peut transmettre. Voilà, on est pas, il y a ces deux dates et à nous de faire ce qu'il faut pour que cette vie soit la plus sensée, enfin, effectivement, qu'elle ait du sens.
Ouais. J'aime ça. Et toi, comment est-ce que tu as commencé à offrir de l'accompagnement de fin de vie? À quel moment est-ce que tu as été attirée ou c'est venu malgré toi? Comment on prend la décision de dire, OK, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire ça?
Mais c'est venu à moi avec le travail d'infirmière à domicile et j'ai commencé le domicile en 2004 quand j'étais en Corse et je me suis trouvée confrontée en fait à ces accompagnements de fin de vie parce que je faisais partie d'une équipe d'infirmières libérales où voilà on allait dans les familles et les familles accompagnaient leurs personnes âgées ou leurs personnes malades jusqu'au bout donc j'ai pas vraiment eu le choix donc j'aurais pu aussi choisir de partir et de faire autrement mais c'était une découverte qui m'a tellement apporté. J'ai trouvé que c'était une magnifique porte d'entrée d'être en contact avec ces familles et avec ces personnes qui peuvent aussi verbaliser des choses mais tellement belles à ce moment-là. Parce qu'avant d'être en fin de vie, souvent ils sont malades et on a déjà des échanges qui sont très, très ancrés, très profonds, très authentiques. Et ça, c'est très, très beau. Et certes, l'infirmière, on dit, elle donne, c'est une profession, une vocation, mais moi, j'ai reçu au centuple ce que j'ai pu donner de par la sincérité, la profondeur et la sagesse de ces personnes à ce moment-là de vie, juste avant la mort, en fait.
Ouais. Te rappelles-tu ta première fois? Et si tu t'en rappelles, est-ce que tu as aussi eu un peu peur?
Ah oui. Évidemment que la peur était là, la peur de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas dire ce qu'il faut. Et puis, je ne peux pas te dire que ça a été facile aujourd'hui. C'est une... me sens confortable, mais ça l'a pas toujours été, évidemment. Et là, c'est tout à fait sincère dans le sens où effectivement, on apprend, et c'est plutôt des fois des familles qui ont pu me guider, au contraire, parce que je me laissais tellement envahir par leurs émotions. J'étais pas capable de retenir mes larmes, etc. Aujourd'hui, ouais. C'est pas capable, c'est que je peux me laisser porter par une émotion qui n'est pas la mienne, mais j'ai conscience qu'en fait, ça n'est pas la mienne. Alors qu'avant, je ne le savais pas. Mais tout ça, j'ai appris au contact et par l'expérience.
C'est super beau. Merci. Merci de ton partage. Parce que là, on en parle dans cette sphère-là de ton travail et de ça, mais c'est vraiment une grande sagesse à appliquer dans notre vie. Hein? C'est la peine des autres ou la colère. Ça ne m'appartient pas. Hein? D'être capable de reconnaître, je peux accompagner l'autre sans m'imprégner des émotions des autres, parce que c'est fatigant à la longue aussi, et ça nous enlève un peu notre, j'ai pas envie de dire puissance, mais nos capacités à être dans notre centre et de pouvoir opérer ou de pouvoir offrir ou être le mieux de notre personne, hein.
C'est tellement ça, Gaïa, le fait de pouvoir avoir de l'authenticité et à la fois une distance, mais ça, on l'apprend et c'est pas quelque chose, enfin, ça s'apprend pas à l'école de soins infirmiers, ça s'apprend par l'expérience, parce qu'on rencontre aussi des pairs professionnels qui vous indiquent par leur attitude, ben le mot juste, l'attitude juste, les familles aussi très dignes. Voilà, c'est, il y a quelque chose d'un échange profond en fait à ce moment-là dans les familles. Parfois effectivement, on voit de la discorde. Il se joue énormément de choses. Il y a des enjeux, des familles qui ne se parlaient plus, qui sont obligées ou en tout cas se voient à nouveau dans ce contexte-là. Et c'est un moment de grande fragilité pour tout le monde. Et quand on est dans cette grande fragilité, tout est exacerbé. Et il faut pouvoir accueillir toutes ces émotions. Et en tant que professionnel, non pas se protéger, parce que je crois que c'est guère possible, mais en tout cas, avoir de la distance et l'observer en faisant bien attention de ce que sont mes émotions et celles des autres.
Oui, très belle sagesse, une belle sagesse. Et toi qui as justement accompagné plusieurs personnes et qui continues de le faire aujourd'hui en France, quel a été l'apprentissage pour toi, dans ta vie à toi? Qu'est-ce que tu en as ressorti que tu pourrais transmettre aujourd'hui aux gens qui écoutent? On n'a pas besoin d'arriver jusqu'au dernier moment pour... Et là, tu compléterais la phrase. Qu'est-ce que ce serait, toi, ta phrase?
Ah, c'est une question intéressante et difficile à la fois.
Mm-hmm. Oui. Un apprentissage qui a fait du sens pour ta vie à toi, en côtoyant, en valsant avec la mort autant de fois. Qu'est-ce que ça a pu apporter dans ta vie?
Ben dans ma vie, quotidiennement, en fait, c'est une joie de vivre. Une joie de vivre parce que je pense que ce passage terrestre est court, qu'il y a beaucoup de futilité et en même temps ça nous fait du bien parfois, hein, ces futilités, mais en fait de pouvoir savourer, j'utilise cette saveur de vivre, mais c'est ça en fait, c'est de goûter tellement de choses qui nous font vibrer. Et puis, ce qui compte, c'est l'amour, en fait, qu'on se porte, l'amour qu'on porte aux autres. On n'est pas parfait, hein, évidemment. Il y a des moments où, si, moi, je suis sans doute désagréable, sans doute pas à la hauteur, sans doute pas assez ceci ou cela. Mais ce contact avec la fin de vie, ça... nous rend humbles et apporte beaucoup de joie de vivre au quotidien. On prend beaucoup de recul, donc ça permet de relativiser. Voilà. Alors c'est peut-être facile à dire, je ne sais pas, mais En tout cas, dans la réalité, l'appliquer quotidiennement, c'est pas toujours simple, mais c'est faisable.
Oui, oui, c'est pas toujours simple, mais c'est faisable. Et c'est drôle. Je trouve que tu rayonnes, toi, la vie. Ce que tu me nommes, que toi, tu as eu comme, que tu as intégré peut-être à la suite de ces expériences, ben, c'est quelque chose que je vois en toi aussi. Il y a aussi une grande, grande légèreté en toi qui a toujours attiré mon attention parce que, bon, je t'ai suivie, là, comme dans ton parcours entrepreneurial et t'as une légèreté. Parce que, écoute, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui on nous a fait croire est très sérieux, là. C'est lourd, là.
On ne peut plus sérieux.
Oui, oui. Et toi, tu me l'apportes avec... c'est comme si c'était un voyage à Hawaï. Je ne sais pas, j'arrive à sentir les fleurs, j'arrive à voir ça comme étant quelque chose de beau. Puis il y a une émotion qui ressort beaucoup, c'est l'amour. Puis tu m'en as parlé aussi, l'émotion de l'amour. C'est drôle parce que, dernièrement, j'en ai parlé déjà, mais Un cours en miracle, pour moi, c'est quelque chose, c'est une Bible, hein, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est ça, c'est de se rappeler qu'on est amour, de vivre cette vie avec légèreté, avec amour. Puis, tu me l'as dit, le jour où on part de l'autre côté, on n'amène même pas à cette... nos richesses, nos avoirs matériels, nos trucs et tout ça.
Oui, à ce moment-là, je pense que les mots qui se disent ou si les personnes ont des regrets, c'est de ne pas avoir aimé suffisamment ou de ne pas avoir été aimé suffisamment. Mais le plus souvent, avoir aimé suffisamment et l'avoir dit suffisamment. Donc, quelques regrets, c'est... Ce sont plutôt ceux-ci, mais et puis ouais, c'est sans doute aussi cette passion pour ce corps physique aussi qui pour moi est vraiment l'endroit de la transmission comme un messager de notre propre lumière. Donc il faut prendre soin d'accueillir et d'écouter avec bienveillance et avec amour ce corps quel qu'il soit, parce qu'on en prend soin jusqu'au bout, et ça, c'est le rôle des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, des familles qui sont là de toucher ce corps, même s'il est flétri, ridé, que la peau est sèche, mais on peut apporter un soin infini à ce corps pour le remercier, l'honorer de nous avoir permis tout ce qui est possible de faire sur cette terre. Et ensuite... le remettre à ce qu'il doit être, c'est-à-dire le remettre à la terre ou au feu, enfin peu importe les éléments, le vent, hein, puisque quand il y a des incinérations, c'est le vent qui emporte les cendres. Je trouve ça très très beau. Il faut honorer ce corps et pour cette vie-là, c'est un merveilleux défi à relever, je pense.
Merci. Merci parce que juste en t'écoutant, ça me remet des trucs en perspective, ça me fait voir autre chose, ça m'amène à voir la vie et la mort tellement différemment. Et comme je te dis, il y a cette manière, cette légèreté que tu apportes autour du sujet où ça devrait être comme ça aussi, parce que c'est le cycle de la vie, la mort, la vie, la mort. Et en fait, on ne part jamais, notre lumière ne part jamais, notre âme... et c'est qu'on vient s'incarner, on vient dans ce moyen de transport pour vivre certaines expériences et voilà. C'est beau.
C'est et super. Ça n'est pas la désinvolture parce que j'ai conscience de la difficulté et encore une fois, je me positionne en tant que professionnelle et en tant qu'accompagnante, mais en tout cas, personnellement, je sais ô combien c'est difficile. Mais je ne peux le savoir, même mon empathie, ma bienveillance la plus puissante ne peut pas me permettre de me mettre à la place de l'enfant, de l'épouse, de l'époux qui accompagne. Ça, c'est ma position de professionnelle. Et idéalement, je dois être à la hauteur de leur amour et de leur difficulté aussi à ce moment-là. Et c'est quelque chose... C'est vraiment un honneur d'être à cet endroit, à ce moment-là. Et j'ai à cœur, en tout cas, de faire en sorte que ça se passe comme ça. Et je suis très contente d'en parler parce que si on pouvait à peine, un tout petit peu, lever le voile de ce tabou de la mort, qu'elle soit un peu moins cachée, qu'elle fasse partie de nos vies, parce qu'elle fait partie de la vie de chacun. Personne n'y échappe, hein, personnellement, amicalement, voilà, de façon lointaine ou plus proche. Mais je trouverais tellement plus confortable, effectivement, qu'on puisse en parler comme on en parle là.
Ouais, ouais. Puis, tu sais, t'as dit quelque chose, puis moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ça n'enlève pas le tragique et tout ça, puis la peine qu'on peut sentir. Non, j'ai perdu ma grand-mère, mais la perte d'enfant, la perte de conjoint, tu sais, je veux dire, chaque perte est différente et est vécue différemment. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour ouvrir ce sujet sur l'accompagnement des derniers moments des gens qui passent de l'autre côté. Comment est-ce que ça peut aussi être doux et être beau? Et d'enlever ce voile noir que la mort, c'est terrible et que ça fait peur et que ça nous fait mal et que, la perte est dure, mais on peut rendre aussi ce moment, si on peut alléger un peu les douleurs du moment avec surtout des gens comme toi, ben c'est magnifique. Donc, je te remercie de vrai et à toutes tes compagnes et tes compagnons qui font la même chose. Je vous remercie profondément. Waouh, quelle belle mission vous avez.
Merci Gaïa de m'avoir permis d'en parler là avec toi dans ce contexte-là, effectivement, comme tu l'as précisé. Voilà, c'est pour moi toujours un honneur d'être en contact avec ces familles qui font ce choix. Et j'ai beaucoup de gratitude pour elles, en fait, pour ces familles. Voilà, et après, quand ça n'a pas été possible, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus. C'est comme ça, les choses sont faites comme elles doivent être faites, tout est juste. Même si c'est difficile souvent de l'admettre, mais quand c'est possible, en tout cas, c'est quelque chose de très beau à vivre.
Oui, oui. Et merci d'avoir ouvert ton cœur, puis cet espace où tu nous as un peu expliqué comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Et peut-être, je ne veux pas normaliser, mais de peut-être faire tomber certaines craintes, puis des peurs, puis c'est grâce à ton partage aujourd'hui que peut-être certaines d'entre nous, comme moi, on va cheminer encore plus dans ce chemin.
Merci beaucoup, Gaïa.
Merci, Marjolaine, et au plaisir.
Merci, Gaïa. À très vite.
À très vite. Bye-bye.
Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @GaïaTotal, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.